Les infos à Washington.
Au micro, Nani Talani, il est 12h en temps universel. Bienvenue au journal. En RDC, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a appelé ce jeudi les autorités du pays à construire des ponts avec l'opposition suite à la récente flambée de violences qui ont fait au moins 50 morts selon les Nations Unies. Le nombre important de victimes civiles, l'incendie du siège et de plusieurs partis politiques et la situation toujours très tendue sont un avertissement clair qu'une crise de grande envergure pourrait survenir très prochainement, a déclaré le haut-commissaire dans un communiqué. Pour l'ONU, les signes sont là et les autorités doivent abandonner leur position extrêmement conflictuelle et construire des ponts avec l'opposition. Or, ce dont la RDC a besoin aujourd'hui, c'est d'un climat plus favorable à un dialogue inclusif et à des élections libres et équitables. Selon le Haut-Commissariat, au moins 50 personnes, dont 4 policiers, ont été tuées lors des heurts et violences survenues dans la capitale congolaise de Kinshasa. Aujourd'hui, le calme semble être revenu, mais même s'il y a une polémique autour de la responsabilité de ces violences et aussi du nombre des morts que ces violences auraient entraînées.
Nous disions déjà même avant l'existence de cette feuille de route que ce dialogue-là n'est pas possible. D'abord, c'est un dialogue factice, c'est un dialogue de dupes. Par contre, pour ceux qui ont accepté de participer à ce dialogue, et nous avions même prévu que les contradictions iront à s'aggravant. Le fait nous démontre un tel comportement, une telle déclaration de la part, n'est-ce pas, des hauts magistrats de la République, est-ce que cela facilite la tâche? Bien au contraire, ça ne fait que gripper davantage la machine et aiguiser les contradictions.
Et voilà l'opposition qui ne décolère pas après cette flambée des violences. Et les Nations Unies exhortent le gouvernement à retirer la garde républicaine des rues sans aucun délai et à déployer à la place des forces de police formées de manière adéquate et dotées d'un équipement approprié pour contrôler les foules. Et au Gabon, la crise post-électorale approche de son dénouement juridique avec une audience publique prévue ce jeudi à 15h temps local et 14h temps universel. Des avocats du président sortant Ali Bongo Ondimba et de son rival Jean Ping vont être devant la Cour constitutionnelle. Il s'agit de la première audience publique depuis que Jean Ping, qui se proclame président élu, a déposé un recours le 8 septembre contre la réélection d'Ali Bongo. M. Ping a saisi la Cour constitutionnelle pour demander le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote dans le Haut-Ogooué. Nous n'avons pas été associés au recomptage, a déploré l'avocat de Jean Ping. Le gouvernement a sévèrement mis en garde hier, mercredi, Jean Ping contre une nouvelle flambée de violence s'il n'obtenait pas gain de cause devant la Cour. Plus de 40 ans après son annexion à l'Angola, l'enclave du Cabinda située entre les deux Congos revendique toujours son autonomie, difficile à obtenir, d'autant plus que le Cabinda produit 60% du pétrole de l'Angola, deuxième producteur d'Afrique derrière le Nigeria. Malheureusement, la majorité de ses 400 000 habitants vit dans la pauvreté. Leader dans cette revendication, le Front de libération de l'enclave du Cabinda, FLEC, ne baisse pas les bras, même si ses membres sont régulièrement victimes d'assassinats. André Tissambou, secrétaire général du FLEC, en parle.
Dans la capitale, la vie a commencé à...
Conflit qui est parti depuis l'annexion forcée du territoire cabindais à partir de 1975. Donc nous, cabindais, déplorons à ce jour la manière dont cette annexion a eu lieu, par la force. Nos revendications sont simples. Nous, on aspire à la vie, on aspire à la démocratie, on aspire à la liberté. Donc c'est pour cette raison que nous, cabindais, nous appelons le gouvernement de Luanda de se conformer à la résolution de la déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de ces peuples à disposer d'eux-mêmes, de s'organiser politiquement, administrativement, économiquement, culturellement, socialement sur leur territoire. C'est-à-dire nous aspirons à la liberté, à la dignité, à notre identité kabylaise.
C'était André Tissambou, secrétaire général du FLEC.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Maroc, le temps monte à l'approche des législatives du 7 octobre avec des tensions croissantes au sein du gouvernement de coalition entre islamistes et technocrates proches du Palais Royal. Dimanche, le ministre de la Justice, l'islamiste Mustapha Hamid, s'est plaint sur Facebook de ne pas être consulté par le tout-puissant ministre de l'Intérieur, Mohamed Assad, pour la préparation du scrutin, jugeant cela bien étrange. Cette charge du ministre de la Justice contre son homologue de l'Intérieur sonne comme un nouvel épisode d'une sourde lutte politique qui se joue à la tête de l'exécutif marocain, de plus en plus exacerbée à mesure que se profile les législatifs. En Égypte, 4 passeurs présumés ont été arrêtés après le naufrage d'un bateau de migrants qui a fait au moins 42 morts au large des côtes méditerranéennes de l'Égypte. C'est ce qu'ont indiqué des responsables de la justice et de la sécurité. Les 4 Égyptiens faisaient partie des 163 rescapés et ont notamment été inculpés pour trafic d'êtres humains et homicide involontaire. C'est ce qu'a affirmé un responsable du parquet de Rosette. Aux États-Unis, ici à New York, suite des travaux de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le point avec notre envoyé spécial, Timothée Donongmaï.
Parmi les réunions de haut niveau prévues ce jeudi à l'ONU, deux concernent les femmes. La première porte sur un nouvel agenda pour les femmes, la paix et la médiation, et l'autre sur l'autonomisation économique des femmes. Deux réunions qui s'inscrivent dans ce nouvel espoir que fonde la communauté internationale sur les femmes et les jeunes comme agents de développement. Mercredi, au Forum des affaires États-Unis-Afrique, organisé en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président américain Barack Obama a rappelé que l'Afrique est le continent dont l'économie croît le plus rapidement au monde, avec une classe moyenne qui dépassera rapidement le milliard d'âmes. Il a invité les investisseurs américains à en prendre avantage pour créer des emplois de part et d'autre de l'Atlantique. L'épineux dossier de la crise syrienne a été évoqué au Conseil de sécurité mercredi. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé ce conseil à s'entendre pour aider les Syriens à faire la paix. Mercredi également, les chefs d'État et de gouvernement du monde se sont engagés à lancer une action multisectorielle concertée contre les causes profondes de la résistance aux antimicrobiens, un danger émergent qui menace la santé du monde. Timothée Donangmaï, New York, VOA Afrique.
Toujours aux États-Unis, la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, a vécu mercredi une deuxième nuit de violence et un civil a été grièvement blessé par des tirs lors de manifestations déclenchées par la mort d'un homme noir abattu mardi par un policier. Le gouvernement de l'État de Caroline du Nord, Matt McCorry, a déclaré l'état d'urgence et a annoncé que la garde nationale ainsi que les policiers des patrouilles routières seraient dépêchés en renfort à Charlotte.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Turquie, le ministre du Travail, Mehmet Muezzinoglu, a annoncé ce jeudi le limogeage de 785 membres de ses services soupçonnés de liens avec l'opposant Fethullah Gulen, à qui Ankara a imputé le putsch manqué du 15 juillet. Plus de 100 000 militaires, policiers et fonctionnaires ont été suspendus ou écartés depuis ce putsch manqué et 40 000 personnes ont été placées en détention. Deux violents combats ont lieu ce jeudi, donc hier à Alep en Syrie, après une nuit de bombardements sur les quartiers rebelles de cette ville syrienne devenue un enjeu majeur de la guerre. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les combats opposent les forces du régime du président Bachar al-Assad à une coalition de rebelles islamistes et de djihadistes dans le quartier de Ramoussa dans le sud-ouest de la métropole syrienne. D'après l'AFP, des combats ont également lieu dans les provinces centrales de Homs et Hama. La guerre en Syrie qui a débuté en mars 2011 après la répression dans le sang de manifestations pro-démocratie a fait plus de 300 000 morts et poussé des millions de Syriens hors de leur foyer. Et enfin, un chasseur américain s'est écrasé jeudi aux larmes d'une île japonaise et son pilote a pu être sauvé. C'est ce qu'on a appris des autorités américaines et japonaises. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau journal. Restez à l'écoute de La Voix de l'Amérique et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.